Bonsoir, comment allez-vous? Ah, pour aller bien, il faut, nous dit-on, avaler 5 fruits et légumes différents par jour. Pas si facile. L'issue est dans la soupe, maison. Sinon, en brique, dans une brique de soupe de pointe d'asperge, vous aurez une pointe d'asperge pour 6 patates. Sans rire, hein, c'est vrai, même si c'est écrit asperge sur le paquet. Donc soupe maison, mais pour aller bien, il faut des légumes de saison, pas de haricots du Kenya ni d'avocats du Pérou. Je suis bien désolée pour ces pays qui auraient aussi besoin de vendre leurs produits. Pour aller bien, il faut que nos 5 légumes n'aient pas pris l'avion pour parcourir la moitié du globe. Sinon, ils sont fatigués. Ils n'ont plus d'énergie à nous donner. Et si en plus on doit d'une manière ou d'une autre leur payer le voyage, mauvais plan. Il nous reste les légumes d'ici, qui sont venus à pied, à cheval, en voiture, les navets, les oignons, les céleri, les citrouilles, les potimarrons, les poireaux, les... Ouais, c'est tout. Ben oui, c'est tout. Comment ça, c'est pas intéressant? Les vieux le savent déjà et les jeunes s'en foutent. Ben, c'est agréable à entendre. On devrait toujours manger des carottes avant de se parler à soi-même.
Bonjour, je m'appelle Yasmine et j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi on dit que les carottes rendent aimables.
Ah ah, Jean Froc, vous qui connaissez tout sur ce qui se mange et ce qui pousse et ce qui se cultive.
Non, non, je connais pas tout. Heureusement d'ailleurs, parce que j'en ai encore à
Vous êtes relativement aimable, cela dit vous.
Ouais, mais c'est peut-être parce que j'aime les carottes.
Peut-être pas au début, mais assez vite vous devenez aimable.
Je crois que ça, c'est pas directement lié à la racine, à ce légume, mais c'est plus lié à la nécessité qu'avaient ou qu'ont les parents de faire comprendre à leurs enfants que c'est très bon de manger des légumes.
Ah, moi, je pensais que c'est parce qu'il y avait du sucre.
Alors, la carotte offre plusieurs avantages dans ce processus éducatif. Elle a un goût sucré, naturellement, parce qu'effectivement, la racine est légèrement sucrée, la chair. Autre avantage, la carotte est une pâte, enfin une fois râpée ou écrasée, un peu grasse, aromatique et très riche en huile et en vitamine A, qui est nécessaire à la vie, qui améliore la vue, etc. À condition de ne pas manger trop, puisqu'on connaît les excès inverses. On connaît des enfants qui sont devenus malades parce qu'ils mangeaient trop de carottes.
Oui. Donc c'est gras la carotte?
La carotte est gras, enfin gras. Il y a des lipides dans la carotte qui contiennent les provitamines A, et qui favorise une amélioration de la vue et qui est nécessaire à la santé. Ce qu'on appelle les carotènes ou les bêta-carotènes. Et cette carotte, on l'a vu par ailleurs, sert aussi de colorant, parce que c'est plutôt bien vu. Alors, on dit que ça rend aimable, tout simplement parce que ça favorise peut-être la consommation chez les enfants. Mais je ne sache pas qu'il y ait beaucoup de réticence alimentaire vis-à-vis de la carotte.
Jean Froc était très aimable, il était docteur en biologie animale et c'est vrai que la première fois que nous l'avons vu arriver au petit bateau, les tout premiers moments où il était un petit peu bourru, mais un tellement gentil bourru, et nous regrettons bien qu'il ne soit plus de ce monde. Le principe des petits bateaux, ce sont des enfants qui posent des questions et des spécialistes qui répondent. Par exemple, Marie-Dominique Poré dira s'il existe des règles grammaticales qui ne servent à rien. Et Nicolas Braic dira si on peut apprivoiser un cochon. Quant au philosophe Bernard Stiegler, il expliquera à Olympe pourquoi on est obligé de travailler.
Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 6 ans, j'aimerais savoir est-ce que les ammonites existent encore? Merci et au revoir.
6 ans, Mathéo, tu m'épates. Est-ce que les ammonites existent encore? Jacques-Marie Bardanzef, vous êtes volcanologue, vous êtes professeur des universités de Paris-Sud, Orsay et Cergy-Pontoise. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une ammonite.
Alors une ammonite, c'est un mollusque qui a une forme un peu d'escargot. C'est pas un escargot, mais ça a un peu cette forme-là. Ça a une forme, donc une coquille arrondie. C'était des mollusques qui habitaient dans cette coquille et qui avaient des tentacules. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça des céphalopodes. C'est-à-dire en fait, la tête porte les pieds, puisque les tentacules sont au bout de la tête.
D'accord. Hein.
Et ces ammonites, donc, elles étaient dans leur coquille, elles nageaient en rejetant de l'eau, donc en se propulsant. C'était des animaux très adroits, parce qu'ils avaient une très bonne vision, et ils attrapaient donc leur proie avec leurs tentacules. Donc ils se sont bien développés, et ces ammonites, on va dire, ont régné dans les océans et dans les mers pendant toute l'ère secondaire, qui a commencé il y a 253 millions d'années, et qui s'est finie il y a 66 millions d'années. Donc ces ammonites ont régné dans les océans pendant 190 millions d'années.
C'est énorme.
Alors oui, l'humain a 2 millions d'années, hein, le genre homo, les ammonites, 190 millions d'années, donc respect.
Jacques-Marie Bardenzef, ils étaient gros comme un grain de raisin.
Alors justement, en fait, elles étaient très variées, ces ammonites. Certaines étaient très grandes, faisaient plus d'un mètre de diamètre. On retrouve encore des coquilles fossiles, donc ça c'est des ammonites gigantesques. D'autres avaient la taille d'une pièce de monnaie.
D'accord.
Il y avait beaucoup d'espèces. Et donc, nous les géologues, on leur donne des noms, souvent des noms latins, parce que c'est classique hein, quand on fait de la biologie, de la géologie. Et souvent, les ammonites ont un nom qui finissent par ceras, qui veut dire la corne, parce qu'elles avaient un peu une forme de corne. Donc par exemple, il y avait Acanthoceras, il y avait Stéphanoceras, il y avait Douvidiceras. Et en plus, ammonite, ça rappelle le dieu Amon, qui est un dieu égyptien qui a une tête de bélier et qui avait des cornes, justement. Ammonite, Ceras, corne, Amon, tout ça se retrouve. Et puis ces ammonites, qui effectivement étaient toutes puissantes, ont brusquement disparu à la fin de l'ère secondaire, en même temps que les dinosaures. Donc il y a eu deux grands groupes qui ont fait régner pendant l'ère secondaire qui ont disparu, les dinosaures sur Terre, les ammonites dans les mers. Alors pourquoi? Ça c'est bien sûr très discuté. Il y a probablement eu des changements climatiques importants, peut-être une catastrophe écologique, certains parlent de volcanisme, d'autres d'impact de météorites. Bon, c'est discuté, quoi qu'il se passe. Bon, ça s'est pas fait en une nuit, hein, mais on va dire qu'assez rapidement, la chaîne géologique, peut-être en quelques siècles, quelques millénaires ou quelques dizaines de milliers d'années, les dinosaures et les ammonites ont disparu. Alors, il faut quand même dire que les nautiles sont les cousins germains des ammonites. Ces nautiles ont à peu près la même forme que les ammonites, c'est également des céphalopodes, ils ont également des tentacules près de leur tête, donc la tête porte les pieds. Simplement, ils ont une coquille qui est lisse, alors que les ammonites avaient une coquille côtelée, crénelée, donc c'est un peu différent. Les nautiles mesurent environ 20 à 30 cm de diamètre. Et ces nautiles, ils ont commencé à vivre à l'ère primaire il y a 400 millions d'années. Et ils vivent toujours. Alors, ils ont bien sûr un peu évolué, mais très peu. Donc, ils traversent bon an, mal an, les aires géologiques. Et c'est pour ça que parfois on les appelle des fossiles vivants, parce qu'ils vivent aujourd'hui quasiment comme ils vivaient à l'ère primaire il y a 400 millions d'années.
Merci Jacques-Marie Bardenzef pour ce voyage dans le temps. Donc, si vous faites un mot croisé et que vous voyez la tête porte les pieds en 11 lettres, céphalopode.
Je veux te voir, je veux t'avoir. New York dans le nightclub, tu t'es rapproché de moi. Je ne vais pas oublier le contact de ta peau, ton sourire et ton rire. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser de cristal à déposer là sur la langue. Fais sauter son top en jean, je crève en voyant sa patrie. Maintenant mon cœur bat au rythme des pas de Tatiana. Blouson de cuir, l'homme à la bouche, ce qui fait chaud dans ce nightclub. Elle se sentait si bien qu'elle me laissa toucher ses seins. Je les prends dans mes mains pour être sûr que je ne rêve pas. Pas gros mais tellement beau, c'est les seins de Tatiana.
Eh ben, ça dépote. C'était Tatiana, le groupe La Femme.
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est la première fois que Bernard Stiegler nous fait le plaisir de venir au Petit Bateau. Ce philosophe enseigne à l'université de Compiègne, à l'université de Brown aux États-Unis, ainsi qu'à celle de Nankin en Chine. Il dirige l'Institut de Recherche et d'Innovation, IRI, et il préside également le groupe de réflexion philosophique Art Industrialis. Je ne vous dis pas tout parce que ce serait trop long. La suite de ses activités, vous la trouverez sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Olympe, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir pourquoi on est obligé de travailler quand on est grand.
C'est une question que nous avons, Olympe, proposée à un philosophe. Vous pouvez lui répondre à Olympe ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais lui dire que il fut un temps où on travaillait même quand on était petit. C'est important de le savoir, il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, pour le développement de l'instruction publique obligatoire, il y a eu des luttes sociales. Beaucoup, beaucoup de parents, au 19e siècle, étaient hostiles à cela. Il y a un très bon film, d'ailleurs, qui s'appelle Padre Padrone, qui raconte ça en Sardaigne. Un père qui refuse d'envoyer son enfant à l'école parce qu'il veut qu'il garde les moutons ou les chèvres.
D'ailleurs, je me demande, Bernard Stiegler, si les grandes vacances, les vacances d'été...
Elles étaient faites pour permettre aux enfants de ramasser la récolte. Voilà.
D'ailleurs, les vacances de la Toussaint, les Suisses appellent ça les vacances de patates.
Voilà. Alors, voilà, il est très important de bien comprendre que pendant très longtemps, les enfants travaillaient très tôt. Évidemment, pas les bébés, parce qu'un bébé, ça ne peut pas travailler. Mais les enfants travaillaient très très tôt, y compris dans les usines, pas simplement dans les champs. Il y a un autre film, Où est la maison de mon ami, d'Abbas Kiarostami, qui raconte comment, au contraire, en Iran, les enfants veulent aller à l'école pour s'émanciper de leur appartenance sociale, leur dépendance de la vie de la montagne et de la campagne, pour pouvoir s'en aller. Alors, la question est évidemment, néanmoins, pourquoi faut-il travailler ? Qu'on soit petit ou qu'on soit pas petit, d'une certaine manière. Eh bien, parce que l'être humain, c'est un être inachevé. C'est-à-dire que il est débile, comme on dit. Débile, ça veut dire sans défense.
Faible.
Faible, ça veut dire inachevé, véritablement. Et ça, quand je dis cela, je parle de l'homme qui apparaît il y a entre 3 et 4 millions d'années. Et qui est un être qui, comme vous savez bien, n'a pas de fourrure, pas de défense naturelle, pas de griffes, pas de dents. Il court pas vite, il est lent, très très lent par rapport aux animaux. Bref, c'est une proie toute crue pour les prédateurs.
Facile.
Et en fait, l'homme va se développer. On dit qu'il est prématuré, on dit qu'il est expulsé prématurément, que c'est une espèce dont les petits viennent au monde prématurément, inachevé. Et donc, il va être obligé de travailler, pourquoi ? Pour développer des organes. Des organes artificiels, pour l'achever, en quelque sorte, pour le compléter, pour lui permettre de vivre. Avec les silex taillés, le feu, puis les maisons, puis les villages, puis les villes, etc. Et tout ça conduit jusqu'à nous. L'homme a toujours dû travailler. Alors, il y a des gens qui vous diront, non, c'est pas vrai, les chasseurs-cueilleurs ne travaillent pas. Si, ils travaillent, puisqu'ils ont des harpons, ils ont des armes, ils les fabriquent. Donc, ils travaillent toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où les hommes travaillaient beaucoup moins. Ils travaillaient 1 heure, 2 heures par jour, et ils vivaient très modestement, disons. Comme c'est le cas, par exemple, des gens, encore, qu'on trouve dans certaines forêts en Australie ou en Afrique. Alors, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que tout ça a beaucoup changé depuis un siècle à peu près, un siècle et demi, grâce à l'éducation et à l'école obligatoire. Et cela dit, les enfants qui vont à l'école travaillent aussi beaucoup, de plus en plus même. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours travailler? Mais alors on travaille de plus en plus tard, au sens d'aller travailler pour gagner sa vie, mais on travaille de plus en plus à l'école. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler? Parce que la production de tous ces artifices, d'abord les silex taillés, le feu, puis ensuite toutes sortes de choses, jusque maintenant les fusées, les robots, etc., ça pose des tas de problèmes. Donc on crée des choses pour résoudre des problèmes, mais en résolvant des problèmes, on crée d'autres problèmes. Et donc il faut créer des spécialistes, il faut former des spécialistes, ou des spécialistes, ou disons des gens qui savent faire avec tout ça. Et là on n'arrive plus. C'est aussi pour ça que les gens vont pas très bien dans leur tête, parce qu'ils ont l'impression qu'on sait plus très bien où on va.
Vous pouvez réécouter ou faire écouter à vos amis, parce que vraiment elle est intéressante, cette belle réponse de Bernard Stiegler, sur le site des Petits Bateaux, franceinter.fr. À propos de travail, celui de Nicolas Brahic est d'élever des cochons en bio extensif sur le Larzac.
Bonjour, Noémie. J'ai déjà apprivoisé un canard. Je voulais savoir s'il était possible de faire pareil avec un cochon, de pouvoir apprivoiser un cochon. Voilà, merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Noémie à la voix, on est enfant à tout âge. Nicolas Braïc, vous n'élevez pas des canards, mais des cochons.
J'élève des cochons. Et ces cochons, en fait, sont très intelligents. J'ai plein d'anecdotes et plein d'histoires rigolotes. Ces cochons, lorsqu'ils sont adultes, ils ont à peu près l'âge mental d'un enfant de 8 ans.
Humain.
Et oui. Et donc, on peut leur faire résoudre même des problèmes. Donc, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça peut être. Après, vous avez un cochon, c'est réellement avoir un animal de compagnie extrêmement attentif et intelligent.
Aussi intelligent qu'un chien, donc.
Peut-être bien plus. Voilà. Ouais. On estime qu'ils sont aussi intelligents que les dauphins, voire plus.
Ouais, ouais.
Des études ont même confirmé que c'est certainement, après l'homme, les animaux les plus intelligents. J'ai vu des cochons résoudre des problèmes pour changer de parc, pour trouver des solutions, pour avoir de l'eau, de la nourriture.
Ils élaborent des stratégies compliquées.
Tout à fait. Ils arrivent même avec leur bouche, des fois, à tirer, à dévisser, à relever. C'est vraiment des animaux extraordinaires.
Donc, on pourrait adopter.
Je pense que avoir un. Moi, j'ai des verras qui dépassent les 300 kilos.
Ah.
C'est pas pareil qu'un chien, quand même. Hein.
Oui.
Et puis, deuxièmement, le verra, que ce soit le verra ou la truie, à partir d'un certain âge, mais surtout le verra, il connaît sa force.
Donc, il sait que c'est lui.
Voilà,
le plus fort.
S'il veut aller à un endroit et que vous voulez pas, vous pourrez pas faire grand chose. J'avais une petite histoire, c'est que mon grand-père maternel déplaçait son verra avec un cheval de trait. Parce que le cheval de trait étant plus fort, il pouvait le tirer et donc le cochon suivait.
Tu peux pas lui taper sur les fesses avec une brindille.
Non, le verra, en fait, il est très résistant au niveau des coups. Il faut jamais taper un animal, mais ça servirait à pas grand chose. Parce que quand ils se battent entre eux, il faut voir ce qu'ils font. C'est classé en fauve, hein, les verras. C'est vraiment quelque chose.
C'est vrai, ouais.
Et ils ont des très grosses défenses. Moi, je leur coupe pas les dents, je ne coupe pas les queues, enfin, aucune mutilation. Et deuxièmement, ils se rappellent de tout. Donc, si vous tapez un animal, il y en a qui en fait subissent, hein, mais le verra, lui, va se rappeler. Et puis, un jour, il va vous expliquer qu'il fallait pas le faire.
La formule est extraordinaire. Il va vous expliquer qu'il ne fallait pas le faire. C'était Nicolas Braïc.
In my heart, in this cold heart.
C'était Michael Kiwanuka sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux. C'est tellement important dans la vie d'être compris. Et pour ça, tous les moyens sont bons.
Je m'appelle Emma et j'aimerais vraiment savoir s'il existe des règles de grammaire qui sont inutiles. Au revoir.
Emma, merci pour cette question. Vous êtes Marie-Dominique Poré, l'auteur de cette grammaire française pour les nuls, donc pour nous tous, édité chez First Edition. Alors, existe-t-il des règles inutiles, demande Emma.
Alors, je vais partir d'un constat. Il semblerait que oui, puisque on va de réforme en réforme, on veut tout changer, on veut tout supprimer surtout, c'est même pas changer. Les réformes veulent dire, non, je ne suis pas chaude pour tout, en tous les cas. Je suis prête, effectivement, à supprimer certaines choses, mais il y a certains points sur lesquels je serai intransigeante et je vais dire pourquoi. C'est vrai que la grammaire a des pièges. C'est vrai que toutes ces règles sont accompagnées d'exceptions. C'est vrai que parfois on a un mal fou à retenir les règles et on se dit, mais pourquoi toutes ces règles? On dirait qu'elles sont immuables comme les 10 commandements seraient-ils toujours valables? Parce que certains sont toujours valables. Et donc, il faut quand même arriver à fixer certaines choses dans nos têtes et après à les appliquer. Donc, il y a des règles, effectivement, qui sont, à mon avis, très utiles et heureusement qu'elles étaient là jusqu'à présent. Ces règles, forcément, elles touchent à la fois aux mots d'usage. Je pense que tout le monde se rappelle qu'effectivement, bon, on nous apprend que devant un P, par exemple, ben, tout N deviendra un M.
Oui.
Genre, je veux dire, si je mets précis, et si je veux dire l'inverse, je vais dire imprécis, le 1 IN va se transformer en IM. Bon, voici une règle qu'il faut apprendre. On sait que devant les P et les B et les M, tout N se transforme en M. Bon, c'est une règle que tout le monde a priori sait.
Mais quelle importance finalement? Pour le sens, pour l'écriture?
Pour le sens, aucun.
Bah alors,
pour le sens, aucun. Mais effectivement, ça fait partie de ces règles. Alors effectivement, on peut juger que cette règle est inutile. Dans le cas présent, vous avez raison de le dire, effectivement. Ça pourrait ne pas avoir la moindre incidence. Mais s'il n'y avait pas de règle, il n'y aurait pas d'exception. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir une règle en français sans qu'elle ait ses exceptions. Mais c'est aussi ce qui fait le charme et la variété d'une langue, surtout que les exceptions, même si parfois elles sont pléthores, bon, ben elles sont quand même très très importantes. Alors c'est vrai que toutes ces exceptions peuvent nous faire enrager. Hein. Bon, vous connaissez l'autre règle, je vais juste aborder celle-là. Pour certains noms, puisque le bijou, caillou, joujou, hibou, chou, hibou, puis maintenant on rajoutera les ripoux, effectivement pour cette série de mots, on sait que le pluriel ne se fera pas avec un S, mais avec un
Nix. Nix.
Je pense que les règles en matière de langue, c'est comme les règles en matière d'autres choses, d'éducation ou de gouvernement, ça permet d'avoir un certain canevas intellectuel pour tout le monde. Sans règles, je pense qu'on tomberait, comme disaient les Grecs, dans l'anarchie. Et ça n'a pas toujours porté ses fruits non plus, l'anarchie. Donc une langue, elle est codifiée, effectivement. Il y a un bon usage. Bon, alors le bon usage, on peut effectivement en débattre, parce que les grands auteurs eux-mêmes prennent souvent beaucoup de
liberté
avec les règles. Et ils ont bien raison. Mais c'est parce qu'ils prennent ces libertés, eux auteurs, que ça nous fait plaisir et qu'on se dit « Ah, ben voici une petite respiration nouvelle ». Voilà. Donc je suis plutôt quand même pour l'apprentissage des règles. Et effectivement aussi, après, le petit détail, la petite chose qui nous fait plaisir, on va effectivement les transgresser, les règles.
Pour répondre à Emma, le bien fondé de la règle de grammaire n'est pas tant dans son utilité...
Non, peut-être pas.
...que dans le cadre qu'elle apporte.
Dans le cadre intellectuel et rigoureux qu'elle apporte. Alors, je me suis amusée justement à réfléchir sur ce mot « règle » en lui-même, parce que voilà un mot qui est d'une incohérence la plus totale. Le mot « règle », puisque c'est de cela dont on parle, c'est un mot qui sonne avec un « e » accent grave, puisqu'on dit « la règle » avec un accent grave. Mais regardez tous les mots de la même famille. « Régler »,« réglage », »,« réglable », »,« réglette », »,« régloire », »,« réglementaire », »,« règlement ». Ils s'écrivent tous, en fait, avec des « e » accent aigu. Mais pourtant, on les prononce avec un accent grave.
Merci Marie-Dominique Poré pour cette belle énergie. Finalement, les sujets que l'on croit rébarbatifs, quand ils sont traités avec passion, deviennent amusants. Dans notre système actuel, un professeur est mesuré à la somme de ses connaissances, plus qu'à sa faculté d'arriver à communiquer sa passion. Mais peut-être que cette faculté est difficilement mesurable. Nos petits bateaux sont terminés. C'était une rediffusion du 20 novembre 2016. Notre répondeur est fermé jusqu'au 1er septembre. Et oui, les machines ont aussi besoin de se reposer. Si, 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 elles sont sensibles. Avez-vous remarqué comme elles se mettent en panne quand on leur parle mal? Ah, vous pensez peut-être que c'est parce qu'elles sont en panne qu'on les insulte? Peut-être qu'elles sont tombées en panne parce que quelqu'un les avait secouées avant vous. Et ça, vous ne le saviez pas. Ben oui, c'est un petit peu comme les gens. À propos de gens, Marjorie de Voucou, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et nous espérons que vous viendrez faire un tour sur notre site, celui des petits bateaux, via franceinter.fr. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.